Mais Claudia, un jeune franco en CBI, c'est quoi?
Eh bien, je suis ici pour vous dire ça. On va rencontrer différents membres de la communauté, on va voir la diversité qui existe dans un jeune franco en CBI et aussi les différentes façons que la francophonie prenne place dans nos vies. Notre podcast par le Comité du Plus pour la communauté d'expression française est arrivé. Assoyez-vous, aujourd'hui, on parle à Alexandre.
Faisons le mood de cette entrevue avec une petite hymne franco-colombienne.
Franco qu'on est bien, en Colombie-Britannique, franco qu'on est fier, de notre beau drapeau.
Salut Alex, ça va bien?
Oui, ça va bien. Et toi? Merci beaucoup d'avoir m'invité à ce podcast. Je suis très, très heureux d'être là et puis je suis content que je puisse parler des sujets dans lesquels on va aborder aujourd'hui.
Moi aussi, je suis super excitée, puis je pense que tu es vraiment quelqu'un d'intéressant aujourd'hui qui va amener une perspective différente. Fait que ma première chose que j'aimerais aborder, c'est quelque chose que je demande à tout le monde qui passe sur le podcast, mais si tu pouvais expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout c'est quoi des francophones ou des franco en CB, qu'est-ce que tu dirais à cette personne en une phrase? C'est quoi un jeune franco en CB?
Boy... Peut-être, genre, impliqué, fier. Je pense que ça, c'est les deux mots qui ressortent. Quand même, on est une petite communauté, mais celles que je connais, ils sont tous fiers. Et puis, ils sont généralement très impliqués dans leur francophonie de leur façon. Et puis, je trouve que c'est une superbe communauté ici en Colombie-Britannique.
Oui, fait que j'aime beaucoup les mots que tu utilises, puis j'ai adoré ta réaction de « wow, comment décrire ça en une phrase? » Puis je pense que j'écho ce feeling-là, parce que c'est vrai que c'est super difficile à expliquer. Fait que le podcast, c'est vraiment ça le but, l'initiative du comité, comme tu sais, de montrer la panoplie de jeunes qu'on a engagés dans la communauté. Puis parlant de ça, j'aimerais, tu sais, explorer toi, tu es qui, tu sors d'où, c'est quoi ton engagement? Que ça soit de la francophonie ou non. Fait que peux-tu un peu nous expliquer qui es-tu?
Ben, c'est une question qui peut t'aborder de plusieurs façons. J'ai fait mes études secondaires à Jules Verne, alors c'est un peu là où j'ai vraiment eu... Mon implication dans ma francophonie a vraiment, vraiment commencé. Bien sûr, quand t'es plus jeune, tu apprends la langue, Tu sais c'est quoi le français, mais tu comprends pas un peu, genre, qu'est-ce que ça veut dire être francophone en Colombie-Britannique et tout ça, mais au secondaire, tu vois plus qu'est-ce que ça peut être la francophonie en Colombie-Britannique. J'ai participé à mes premiers événements du Conseil jeunesse en 2015, j'aimerais dire. Je suis allé à mon premier parlement. Plus tard dans l'année, je suis allé au jeu de la Colombie-Britannique, et puis de là, j'ai eu plusieurs opportunités juste de s'impliquer, de rencontrer d'autres personnes. Et puis, j'ai gradué. J'ai fait un an à SFU. C'était bien. Puis, j'ai fait un transfert à Ryerson, à Toronto. Et puis, là, c'est vraiment, je trouve, en termes de représentation de la francophonie, c'est un nouveau défi, aller à un nouveau endroit où peut-être tu connais pas, t'es pas si... tant impliqué, je dirais, dans la francophonie de Toronto, parce que c'est une énorme ville et puis les implications sont différentes, mais de distance, là, j'ai pu quand même m'impliquer en CB parce que je suis fier d'être de la Colombie-Britannique. C'est pourquoi maintenant, dans cette année unique, que je suis retourné ici puis que je continue à m'impliquer parce que je suis très fier d'être de Vancouver, d'être de la CB. Puis c'est un peu mon parcours. Je suis pour le moment à Ryerson et puis j'espère, je suis dans ma deuxième année à Ryerson, troisième année d'université. Il me reste 2 ans après celui-là, puis je vais graduer puis voir où l'avenir m'amène.
Ouais, fait que c'est vraiment super de t'entendre parler, puis je pense qu'on est très chanceux, le comité 18+, de te revoir en CB, même si la pandémie a lieu, au moins ça c'est un petit positif qui est arrivé, c'est que tu peux revoir ta famille, tu peux revoir ta communauté francophone, que ça soit virtuel ou en personne. Puis quelque chose qui m'a vraiment intéressée, c'est que tu as commencé à mettre un peu un temps sur le développement de ton identité, dans le sens que tu disais que tu as appris la langue, ensuite tu t'es attaché plus à la culture. Pourrais-tu me parler s'il y a un moment dans ta vie, dans un événement ou dans un espace où qu'il y a eu un déclic que tu as réalisé, tu sais, je veux faire plus que juste participer à des activités ou à des choses en français, mais je veux en faire partie de l'organisation ou m'engager encore plus. Comme moi, je sais que tu étais dans le cabinet du PGFCB avec moi. Fait qu'il y a eu comme un moment que les gens disent qui s'appelle déclic. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est ça, le moment où tu réalises que la francophonie, c'est important pour toi puis que tu veux t'engager davantage.
Ah, c'est une bonne question. Je pense pas que j'ai genre un moment où j'étais genre assis quelque part et puis c'est genre la lumière métaphorique, mais quand même, je dirais peut-être fin secondaire, début université. Sûrement en université, je trouve, parce que des fois au secondaire, en plus quand t'es dans une école francophone, t'es tellement dedans que tu réalises pas l'importance, si ça fait un peu de sens, parce que des fois quand t'es dans l'environnement, il faut sortir de l'environnement et voir ça de distance, et je trouvais en première année université, je suis allé bien sûr à SFU, j'étais dans un programme anglophone. Alors, juste être entouré d'anglophones et puis voir un peu la différence et puis continuer à un peu m'impliquer de distance. Par exemple, je pense, dans ma première année, j'ai fait un peu de coaching à Jules Verne. Alors, retourner dans l'environnement, j'ai participé à des événements de conseil jeunesse. Tu réalises, oh, comme ça me manquait vraiment de ces événements-là. Avant, tu faisais ça, c'était amusant, mais tu pensais pas genre, oh, on est là un week-end, on parle français. Parce qu'on parle français tout le temps. Pour moi aussi, j'ai dit, oh, y a des semaines où, à part mon père, comme, je ne parle pas beaucoup de français. J'étais un peu distancé de ça. Et puis, juste, je pense que c'est quelque part dans la première année d'université, tu es là de distance, tu rentres encore dedans, tu dis, oh, OK, je peux voir l'importance que ça peut avoir et puis comment je peux le manquer, et puis pourquoi je continue à m'impliquer, pourquoi maintenant c'est. Je suis là, je dis c'est important la francophonie, j'aime parler français, j'aime continuer à m'impliquer parce que je veux pas le perdre, je pense pas que je vais le perdre, mais je pense quand même, tu peux voir un peu la différence si tu vas deux semaines, trois semaines, un mois sans parler, comparé à avant, c'était tous les jours, c'était l'école, t'étais tellement dedans que tu réalisais pas l'importance un peu.
Ouais, je pense que t'as raison. Je pense que des fois, on prend pour acquis que cette francophonie-là nous enveloppe au secondaire, que c'est facile, d'après l'université, réaliser à quel point on fait plus de l'espace pour cet engagement-là. Fait que c'est cool de voir que tu y mets beaucoup d'importance puis que tu veux continuer à t'impliquer, comme t'as nommé, tu retournes à ton secondaire coaché, tu t'impliques dans le comité 18+, et tu viens aux événements quand bénévole. Puis moi, ma question, ça, c'est plus sur ton au niveau identitaire, parce que tu parles beaucoup de ton attachement à ta francophonie, mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que quand tu parles aux gens, tu te considères, tu dis que t'es bilingue, tu dis que t'es francophone, tu dis que t'es anglophone, ou comment est-ce que tu te décrirais sur un plan identitaire?
Je dirais plutôt bilingue. Quand même, il faut... Je parle beaucoup anglais, mes études sont en anglais, je fais beaucoup d'écriture, de lecture, beaucoup de choses en anglais, alors je vais pas genre cacher que je suis quand même impliqué dans mon côté anglophone, mais aussi en même temps, je dirais que je suis confortable en français, je suis fier que j'ai pu faire mes études et graduer avec un diplôme en français, puis je continue à utiliser ma francophonie quand possible, même dans des situations de travail, d'école, ça me donne un avantage, même quand j'ai fait des voyages, juste aller à des pays où ils parlent français, tu réalises un peu l'importance. Alors, je dirais oui, que je suis bilingue.
Parfait, c'est vraiment intéressant, parce que tu as vraiment un attachement aux deux côtés de la langue. Puis, est-ce que tu as des espaces en CB où tu peux vivre ce bilinguisme avec d'autres gens?
Je trouve quand même avec des camarades de classe à Jules Verne, par exemple, c'est un moment comme ça. On parle bien les deux langues. Il y a des moments où il y a une intersection un peu entre les deux langues. Ça change. Des fois, c'est en anglais. Des fois, c'est en français. C'est pas nécessairement attaché à une langue ou l'autre. Ou même... Ouais, je trouve Jules Verne comme exemple de... interagir avec des anciens collègues de Jules Verne comme un exemple de cela, parce que, ouais, comme j'ai dit. Puis d'autres endroits, Je dirais que ça vient et ça va, il n'y a pas des endroits spécifiques. Je trouve quand même que c'est assez. Ça semble être assez séparé. Il y a des moments vraiment en anglais puis des moments en français. Mais alors, je dirais pas qu'il y a une superbe intersection, pas une grande intersection, mais il y a quand même des moments où tu changes beaucoup et puis tu dis, oh, je parle en anglais, je parle en français, c'est pas fixé, je dirais.
Puis j'aime que tu parles d'intersectionnalité puis d'intersection entre les identités. Puis j'aimerais qu'on saute un peu à cette intersection entre être francophone ou anglophone, puis un peu dans la lumière du mois de l'histoire des Noirs. Mais comment est-ce que tu vis cette dynamique entre ton identité entre un homme noir et un francophone en minorité en CB?
Je pense que c'est quand même, il y a une intersection, bien sûr. Grâce à mon côté, you know, juste être homme noir, mon père il vient du Sénégal, c'est de là où un peu ma francophonie vient. Alors je suis un peu, il y a un lien entre ma francophonie et puis mon identité à cause de ça. Bien sûr pour d'autres c'est différent, je trouve juste pour moi de façon personnelle, c'est, il y a une raison pourquoi je suis you know, fier des deux, il y a un lien entre les deux et puis... je trouve avec l'intersectionnalité, tu réalises pas un peu comment un côté de ton identité peut lier à l'autre. Et puis, je trouve quand même avec la francophonie et puis mon côté Afrique de l'Ouest sénégalais, aller au Sénégal pour la première fois et voir comment des gens... Tu sais, quand tu grandis ici, peut-être il n'y a pas une énorme communauté noire. Et puis d'aller au Sénégal, par exemple, et de voir... une énorme communauté noire, bien sûr, qui parle français, tu réalises, oh, c'est quelque chose, ça fait partie de mon identité, ça, même si c'est, tu penses pas à ça, tu réalises pas, et puis juste vivre ces moments comme ça, ça me fait un peu réaliser, ok, ça fait partie de mon identité, pas seulement ça, je suis fier à dire que je suis noir, que sur mon héritage noir, il est riche en histoire, il y a beaucoup de ma famille qui font des choses incroyables, notre histoire est bien. Il y a beaucoup de beaux moments dans nos histoires et je suis fier de ça et puis ça me fait un peu envie de continuer ça et puis de genre juste accomplir des choses en sachant ce qu'ils ont fait. Puis c'est la même chose pour la francophonie aussi, juste d'accomplir des choses en français puis de savoir l'importance que ça a eu sur mon identité, notre famille, notre côté francophonie. Alors je trouve, oui, il y a une énorme intersectionnalité entre les identités et dans mon cas, je le vis de jour à jour et puis de l'année à l'année.
Oh, c'est vraiment cool de t'entendre parler de la fierté que tu as envers ton identité qui joue le rôle entre francophone aussi du Sénégal. Moi, ma question, c'est vraiment située au Canada. Comment est-ce que ça joue ici? Est-ce que tu as nommé le fait que quand tu es retournée, tu as eu ce sentiment de fierté, puis de communauté, de parler en français dans ta communauté noire, ça fait une différence. Mais est-ce qu'au Canada, quand tu grandissais, il y a eu beaucoup de représentations noires, des modèles accessibles, francophones noirs qui t'ont entouré ou que tu penses... peut-être qu'il n'y en a pas assez. C'est quoi tes opinions sur ça?
C'est une bonne question parce que quand même, personnellement, il y avait mon père. Je pense que je suis chanceux que mon père, il est noir, il a fait beaucoup de grandes choses. Ça peut quand même être genre modèle pour moi, mais en pensant, il n'y a pas vraiment beaucoup à part de ça à lequel je peux penser. Peut-être il y a eu un professeur ici ou là ou peut-être... bref, pour dire, c'est genre vraiment la minorité. C'est pas quelque chose qui est remarqué. Des fois, il y en a eu, tu dis, OK, tu pensais pas au moment, mais en réalisant maintenant, en regardant dans le passé, tu réalises, OK, oui, ils ont quand même eu une influence. Mais pour répondre à la question, non, pas vraiment, la représentation est pas si grande à ce que tu imaginerais. Et puis, en plus, pour moi, quelqu'un que mon identité, identité est quand même assez, comment dire cela, peut-être pas flou, mais genre, il y a beaucoup d'intersections parce que j'ai quand même, je suis chanceux d'avoir beaucoup d'identité culturelle grâce à ma mère et puis mon père et puis que je suis bilingue, et puis que sur notre côté de ma mère, il y a une histoire européenne de l'Est très, très profond, et puis sur mon père aussi avec le côté africain. Alors, il n'y a pas vraiment... Pour des enfants mixtes comme moi, c'est sûr que les modèles sont... Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est quand même un sujet dans lequel les gens y pensent pas un peu. C'est, avec l'identité, c'est très noir ou blanc. Pas genre, ouais, juste noir ou blanc, pas de façon genre visuelle, mais métaphoriquement. Et puis, quand on réalise, il y a beaucoup, comme on dit avec l'intersectionnalité, il y a beaucoup de liens entre les deux. Et puis, des fois, on pense pas à ça. Alors, sûrement pour moi, personnel, on pense à ça. Pas vraiment, et puis même juste penser à mon côté, juste homme noir, même là, il y avait peu, je trouvais.
Ouais, non, mais je pense que t'as raison, puis c'est vrai que peut-être des fois on pense pas comment créer des espaces qui sont intersectionnels pour que les gens puissent, tu sais, s'attacher, puis se sentir pour vivre leurs identités en même temps. Fait que je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, puis je vois que ton lien familial est très fort, puis c'est quelque chose que je pense que t'es vraiment chanceux. D'avoir eu des modèles dans ta vie qui font partie de ta famille, mais je pense que c'est important de noter que oui, il y a peut-être un manque de représentation noire dans notre communauté. Puis pour appliquer ça un peu en grandeur, je sais que tu étudies quand même, puis tu es quand même connaisseur des sports, des médias sportifs. Qu'est-ce que tu penses de la représentation noire dans les politiques, dans les sports au Canada?
Bah, pour ça, c'est sûr, il n'y en a pas assez. Il n'y a vraiment pas assez. Sûrement pour moi, en essayant de m'impliquer dans une industrie médiatique, sportive, sûrement, c'est intéressant. Tu vois, sur les terrains de sport, il y a beaucoup de représentations, même au niveau amateur, parce que quand même, le Canada, c'est un pays rempli de la diversité. Moi, quand j'ai joué des sports, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de représentations. Je peux penser à des coéquipiers qui venaient de partout. Il y avait des équipes, on était la majorité, on était des minorités. C'était pas majoritairement genre blanc comme ici. Le Canada, techniquement, c'est un pays. La majorité de la population, c'est blanc, mais j'ai joué avec des équipes où c'était pas du tout le cas. C'était quand même une représentation qui un peu, pour dire un peu, ça représentait bien le Canada, je dirais. Mais tu regardes sur la télé, il y a pas beaucoup de minorités qui ont eu la chance d'aller sur la télé. En sport, c'est la même chose. Les médias sportifs, tu vois, il y a un match de football américain où le sport, c'est majoritairement noir. Puis les analystes sont la plupart des blancs. C'est un peu intéressant de voir un peu ce contraste. Je trouve même chose en politique, il y a très peu de représentation politique de minorités. Bien sûr, maintenant, ça améliorait beaucoup, je trouve, dans les dernières 5 années. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont élues en politique et puis qui sont et beaucoup plus de minorités, mais je pense pas quand même que c'est un niveau qui est représentatif de notre pays et puis de notre genre environnement. Puis même chose, je dirais, pour le sport, parce que quand même, c'est un grand sujet dans lequel est en train d'être abordé dans les sports maintenant. Comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure représentation? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les gens, ils ont une voix? Et puis, c'est pas juste, genre, des voix comme, OK, t'es noir, est-ce que tu peux parler de l'expérience noire? Mais aussi juste parler de l'expérience, juste des sports, parce que les noirs, juste pour donner un exemple, il y a des reporters qui sont très bons, ils sont noirs, ils ont réussi à s'impliquer dans l'industrie, ils sont des grands noms. Puis à des fois, eux, ils sont seulement appelés pour parler de leur identité noire, et puis c'est bien. Puis si j'étais dans leur position, j'aimerais bien le faire, parce que quand même, ils peuvent connaître leur plateforme et connaître comment éduquer des gens, mais en même temps, ils sont des experts des sports, ils sont plus que juste des gens qui sont là à expliquer et enseigner des autres gens à apprendre quand ils ont un comment dire, genre, ils ont un skill set, ils ont genre des compétences qui sont beaucoup plus variées, plus complexes que cela.
Ouais, non, absolument, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que souvent on met un peu tokenizing, c'est ça le terme, dans le sens qu'on essaie de montrer qu'on est inclusif et qu'on demande à la seule personne de minorité de parler de son identité. Puis c'est sûr que s'il y a une façon d'apporter de la sensibilisation qui est avec les communautés, pas en utilisant, tu sais, juste pour paraître bien, puis pas être des vrais alliés. Mais non, mais j'ai vraiment aimé aussi ce que tu parles dans les sports, puis je sais que tu as un podcast. Ça vient d'où ce podcast que tu discutes et c'est quoi que tu fais avec ton podcast?
Ben, je suis très chanceux d'avoir eu l'opportunité de créer mon propre site web qui a commencé avec la couverture des Whitecaps de Vancouver, l'équipe de foot ici à Vancouver, puis qui est un peu maintenant ça couvre la Ligue première canadienne de foot et puis les équipes nationales masculines et féminines. Et puis juste à partir de ça, j'ai aussi créé un podcast où moi et puis un co-host, je n'ai pas le mot en français, co-host, ou je n'ai pas le terme exact, mais lui et moi, et puis chaque semaine, chaque quelques jours, on aborde des sujets. Généralement, on parle bien sûr des Whitecaps, leur match, qu'est-ce qui se passe, et puis d'autres sujets de soccer canadien. Puis avec ça, quand même, c'est bien sûr quelque chose qui me passionne. Je fais ça un peu, c'est pour le fun, bien sûr, ça aide avec mes études, mais c'est pas quelque chose genre, ils ont pas dit à partir de nos cours, ok, vas-y, fais ça. Bien sûr, c'est toujours recommandé, mais c'est quand même un projet de passion pour moi. Mais depuis la dernière année, sûrement depuis 2020, avec juste quand on réalise un peu plus l'importance de parler sur les trucs, parler sur ce qui se passe. On a commencé le podcast en 2020, alors je ne peux pas prétendre que j'ai pu parler de ça en 2019. J'avais bien sûr le site web avant ça, mais juste avec notre podcast, bien sûr, c'est sport. On parle des sports, mais ce que je suis fier qu'on a pu faire, c'est qu'on n'a pas peur d'aborder des sujets difficiles sur notre podcast. Et puis, on n'a aucune raison à le faire. On est deux jeunes, on aime le sport. On n'est pas genre les professionnels de Sportsnet ou... On n'a pas peut-être la même audience, mais on n'a pas peur de parler des choses qui se passent parce qu'on sait même si 5 personnes, 10 personnes, 50 personnes écoutent, entendent le message, au moins c'est un début. Et puis si 5 parmi ces 50 personnes parlent à quelqu'un d'autre, ben on a déjà commencé quelque chose de bien. Alors sur notre podcast, bien sûr c'est le foot, mais il y a beaucoup d'intersections entre les comment dire, les issues, les problèmes les qui viennent, les enjeux, exactement, les enjeux. Puis, par exemple, en mai, quand il y avait vraiment, mai, juin, excusez, quand il y avait vraiment le mouvement de Black Lives Matter, c'était vraiment présent. Et puis, dans les matchs de foot, on parlait pourquoi c'est important cela, et puis l'importance de la plateforme du foot, et pourquoi c'est bien qu'ils ont fait cela, et puis... Quand il y avait d'autres sujets, par exemple, il y avait le cas de, aux États-Unis, l'équipe féminine de foot était allée à la cour pour se battre contre la fédération de foot américaine pour recevoir du paiement égaux comparé à l'équipe des hommes. On a parlé pourquoi cet enjeu est important, juste le racisme, le sexisme, l'homophobie, toutes ces choses-là, parce que c'est important dans le sport. Et même si on dit, les gens, il y a certaines personnes qui veulent dire les sports et les politiques, ça ne mélange pas. Moi, je dis le contraire. Sans les politiques, il n'y a pas de sport. Et puis, avec les sports, ça peut s'impliquer dans les politiques. Alors, c'est juste quelque chose qu'on veut faire parce qu'on sait l'importance. Mais bien sûr, c'est un podcast. On est là, on discute du sport, on adore le sport. Mais on n'a pas peur de parler de ces enjeux-là.
Wow, je trouve ça super d'entendre ça, puis moi j'aimerais bien que tu nous partages où trouver ton podcast après pour que les gens qui veulent, tu sais, aller t'entendre parler, ils puissent te trouver. Mais je trouve que ça, c'est vraiment la forme d'activisme qui fonctionne le mieux. Tu sais, c'est quand ça vient de la jeunesse, qui a vécu, qui a pas peur de dire ce qu'il pense, puis faire, tu sais, un podcast... on the ground de vous autres qui parlent de ces enjeux sociaux. Je pense que c'est vraiment une façon qui est extraordinaire pour passer le message. Puis, tu sais, il n'y a pas d'influence de pouvoir. Tu sais, tu peux vraiment rendre ton podcast ce que tu veux. Fait que je pense que c'est vraiment cool d'entendre que tu as fait ça puis que ça commence cette année. Fait que vraiment, il y en a plein à arriver. Puis oui, comme tu dis, je pense que les sports, souvent les gens, ils ne mélangent pas puis ils se disent, tu sais, ah, oh, c'est juste un sport. Mais oui, non, l'industrie du sport, je pense qu'il y en a beaucoup à dépacter quand on parle de justice sociale, discrimination, sexisme, comme tu nommais. Fait que je trouve ça vraiment cool que tu trouves une façon par et pour d'en parler dans tes podcasts. Fait que c'est où qu'on peut trouver ça, tes podcasts?
Ah, ben, tu peux le trouver plein d'endroits. Les principaux, c'est Spotify, Apple, Google Play, Anchor, Overcast, il y en a plein. Alors,
fait que t'es partout, finalement. Puis c'est quoi le nom ou c'est quoi chercher?
Pour trouver, ça s'appelle The Third Sub Podcast. Alors, bien sûr, comme je dis, c'est principalement axé sur les Whitecaps de Vancouver avec quelques autres sujets de foot mélangés, mais des fois, dépendant des enjeux, ça varie les épisodes.
Cool. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de sujets dans la lumière de l'histoire des Noirs, ton podcast, de qui tu es, ton engagement. Moi, j'ai encore une petite question. Pour les gens qui écoutent, as-tu comme un dernier mot à dire sur c'est quoi un jeune d'expression française au milieu minoritaire? Parce que je pense que beaucoup de gens qui ont le trouble de s'identifier parce qu'ils pensent que t'sais, ils sont peut-être pas dans les critères. Mais c'est quoi que tu leur dirais s'il y en a qui écoutent ça puis qui se demandent « Est-ce que je suis francophone? Est-ce que je peux m'appeler francophone? »
Ben, juste vivre dans une minorité, dans une communauté comme ça, c'est juste d'être fier de qui tu es. Ça commence avec nous, de se connaître notre identité, de se demander la question de qui on est, d'essayer d'explorer, d'apprendre plus, de demander à des parents de lire plus, juste de faire ce qu'on peut pour s'apprendre plus sur soi-même. Et puis, en termes de fierté, sois pas peur de qui tu es quand tu sais, par exemple, pour les Noirs, sois fier de nous, par exemple, avec les Noirs, ils ont une histoire très riche avec les cheveux, nos cheveux sont... Ils sont spéciaux, tu peux faire plein de choses avec des styles. Sois pas peur de faire des styles, même si des gens vont peut-être dire des commentaires irrespectueux. Ils vont pas comprendre l'histoire ou comprendre les cheveux. Sois pas peur de faire ce que tu veux si ça te rend fier de ton identité, si ça te rend confortable. Sois pas peur d'apprendre plus sur les habits, de porter les habits traditionnels, de s'attacher à ton pays, de parler avec tes parents, apprendre les langues de votre pays. Pour moi, personnellement, je me suis attaché au football sénégalais parce que ça me donne une chance de m'attacher au Sénégal, puisque quand je parle avec certains oncles à la maison, on puisse se réunir sur ce sujet parce que je regarde les matchs et je connais les joueurs et je connais les enjeux. Il y a plusieurs façons à s'attacher à son identité. Je pense que ça commence juste avec connaître ton identité et connaître qui tu es, puis juste de apprendre plus et puis de ne sois pas peur de montrer qui tu es, d'être fier de qui tu es. Puis c'est sûrement avec les Noirs, peu importe si t'es comme moi, t'es enfant mixte ou si tes deux parents sont noirs, juste apprendre plus sur soi et être fier de ça.
Wow, merci Alex, c'est super inspirant ce que tu dis, puis moi j'oserais dire que tu es un modèle accessible dans nos communautés jeunesse et qu'on est chanceux de t'avoir encore parmi nous engagé dans la francophonie, puis je pense que t'améliores avec ta perspective nos activités, nos enjeux et nos discussions. Puis ma dernière chose à demander, que je demande à tout le monde, c'est si tu avais juste 3 mots pour dire à quelqu'un c'est quoi qui te fait penser à la communauté en CB francophone, tu dirais quoi?
Décrire la communauté, je dirais juste ils sont fiers, comme j'ai dit au début. Je pense que c'est quand même quelque chose qui ressort, juste impliqués. Ils sont impliqués, ils sont pas... Même quand ils ont des moments, ils auraient pu abandonner, ils sont toujours impliqués à la cause francophone. de s'assurer qu'on est représenté, c'est bien partout que je vois, il y a plein de francophones que je connais qui continuent à faire des bonnes choses pour s'assurer que la francophonie reste fort comme il est. Puis peut-être un dernier, c'est juste ses familles. C'est une famille, on se connaît tous, peu importe où on est dans la province, on se réunit à partir de la francophonie. Puis de là, on fait plein de grandes choses. Alors ça montre un peu la fierté qu'on a comme famille. Puis comme il dit un peu, la famille, tu choisis pas la famille, mais dans ce cas-ci, c'est pas une famille où on n'a pas beaucoup d'altercations. C'est une bonne famille, c'est une famille solide, c'est une famille dans laquelle je suis fier de faire partie.
Oh, j'adore ça, j'adore comment tu l'as mis, c'est notre famille choisie. Fait que je me sens, j'ai toutes les émotions qui viennent au cœur quand on parle de fierté, implication et famille, c'est trop bien mis. Puis je voulais juste te remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir nous parler de ton identité noire, francophone et ton cheminement. Puis ça, au plaisir de se reparler bientôt.
Ça fait un grand plaisir, j'apprécie que j'ai pu avoir la chance de partager, puis j'apprécie... Que j'ai pu partager ce moment avec toi, c'était super. Et puis, tu as fait un super bon travail de hoster tout cela.
Et voilà, c'est déjà la fin. On se voit en mois de mars pour parler de la francophonie. Et oui, on va célébrer le mois de la francophonie ensemble. On a plein de belles surprises pour vous. À bientôt!